Oui, ne vous inquiétez pas trop pour moi. Un tour de rein, ça m'arrive de manière, comme peut-être beaucoup d'entre nous, un faux geste et puis on a mal pendant 2-3 jours, peut-être 4, mais c'est pas plus grave que ça. Merci, Cheryl, de penser à moi. Et aujourd'hui, le message, la puissance du sacrifice de la croix, c'est le titre cet été. Je suis en train de relire la lettre aux Hébreux. Et c'est un des livres vraiment bénissants de la Bible. Et c'est un exercice qui m'encourage énormément. Puis je veux partager de ces encouragements-là pour mon âme, pour vous et votre âme ce matin. Et ça tombe bien, il y a un lien avec le repas du Seigneur. Mais prions d'abord. Merci Éternel pour... ta grâce, merci pour la croix de Christ qui change tout pour nous. Je veux vraiment, avec mes frères et sœurs, t'adorer, te remercier. Et rends-nous attentifs. Dirige-moi dans mes paroles maintenant. Au nom de Christ. Amen. Alors, la lettre aux Hébreux, personne ne sait qui l'a écrite. Parce qu'elle n'est pas signée, mais depuis le début de l'Évangile, on a toujours su que ça a été écrit dans les premiers temps par quelqu'un qui était proche des apôtres et qui enseignait dans la même lignée qu'eux. Et puis, les chrétiens qui lisaient cette lettre ou qui l'écoutaient, la lecture de cette lettre à l'Église, ont toujours senti que il y a quelque chose de puissant là-dedans qui vient de Dieu, l'inspiration. Bref, ça a été inclus dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et c'est une bonne chose parce qu'il y a des richesses incroyables là-dedans. Dans cette lettre, l'auteur inconnu a écrit à une église locale où, en fait, la majorité des gens, on le voit, quand on lit, on voit que c'est surtout des gens d'origine païenne. Dans l'Empire romain, quelque part, ils forment une église. Ils sont surtout non-juifs, mais il y a quelques juifs parmi eux. Mais ils semblent tentés, à cause des difficultés de la vie chrétienne et la persévérance que ça demande, tentés de délaisser Jésus pour retourner vers le judaïsme, vers la religion on peut dire qui a été inaugurée par Dieu avec Moïse dans l'Ancien Testament. C'était une grande religion à l'époque, répandue dans l'Empire romain, reconnue. Et ces personnes sont attirées par une foi, une autre sorte de foi basée sur des commandements et sur des rituels. Donc, on comprend que la foi chrétienne, au début, c'était pas très rituel, c'était pas légaliste non plus, mais il y avait quand même le défi de persévérer qui fait que des chrétiens mal affermis étaient attirés pour retourner vers le judaïsme. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de religions dans le monde et beaucoup d'entre elles sont impressionnantes, soit par la grandiosité de leur rituel. Ça peut être que c'est très beau visuellement, les odeurs avec l'encens ou autre, l'architecture des bâtiments. Et ça peut être aussi le nombre de commandements. Et quand on voit les gens qui sont attentifs à obéir aux commandements, ça peut impressionner une chrétienne ou un chrétien qui est mal affermi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'avec Jésus, on a tout. on a tout ce qu'il nous faut et qu'il ne faut pas se laisser aller à la tentation des systèmes religieux impressionnants ou grandioses, mais rester branché sur Jésus. C'est lui qui te donne une relation directe, spirituelle, avec le Dieu vivant. Et en plus, il te donne une force intérieure pour accomplir sa volonté de manière, on va dire, intuitive. Il y a comme, on a parlé du copilote que Dieu nous donne, le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit nous aide, on va dire, intuitivement, naturellement, à savoir comment être sensible et obéir à la volonté de Dieu. On a tout ce qu'il nous faut en Jésus. Donc, restons attachés. C'est ce que dit l'Épître. Et la lettre aux Hébreux nous parle de deux thèmes qu'on voit à l'Oasis dernièrement. Premièrement, la loi de l'Ancien Testament. On va en parler un petit peu tantôt. Dieu a donné à Moïse dans le désert beaucoup de commandements. La lettre aux Hébreux, qui est dans le Nouveau Testament, nous explique que la loi de l'Ancien Testament prend un nouveau rôle complètement différent dans nos vies en tant que chrétiens de la Nouvelle Alliance. On va en parler un peu aujourd'hui et plus tard. Surtout qu'on va retourner au livre de l'Exode un peu plus tard et là, on va voir toutes ces lois que Dieu va donner. Un autre aspect qu'on peut mentionner, c'est le repas du Seigneur. Il y a quelque chose qu'on va voir ce matin qui vient de la lettre aux Hébreux qui va nous dire pourquoi on doit approcher ce repas avec un esprit joyeux et libre. Vous allez voir. Pour résumer ce que je vais dire ce matin, seulement Jésus est capable de purifier ton cœur de toute culpabilité, de te libérer ton âme pour servir Dieu et les autres sans crainte, libéré de la crainte. Est-ce que tu veux ça? Oui. OK. Les oui sont silencieux, mais j'espère qu'ils sont enthousiastes. Et puis, troisièmement, cette sagesse que Dieu place à l'intérieur de toi pour accomplir la volonté de Dieu naturellement. Donc, je répète, Jésus, par son sacrifice, qui est un événement vraiment unique, devient l'élément clé de ta foi et tu dois t'accrocher à lui. C'est lui seul qui est capable de purifier ton cœur, libérer ton âme et te donner la sagesse pour obéir à Dieu. Je vais maintenant partager quatre vérités merveilleuses qui viennent de la lettre aux Hébreux. Il y en a beaucoup d'autres, mais on va se limiter à quatre. Et avec des passages clés qui ne sont pas longs, que je vais lire aussi, pour juste nous rappeler à quel point Jésus est central. Et il faut que tu restes accroché à lui. Et surtout, rester au clair dans ton cœur sur l'héritage qu'il te donne. La première vérité, c'est par rapport au sacrifice de l'Ancien Testament. Il y a une grosse partie de la loi que Dieu a donnée à Moïse et qui est par rapport au sacrifice d'animaux que le peuple d'Israël doit offrir régulièrement à l'Éternel. Et la première vérité, c'est que les nombreux sacrifices de l'Ancien Testament sont remplacés par le sacrifice de Jésus qui est une fois pour toutes. OK? Les nombreux sacrifices répétés de l'Ancien Testament sont remplacés depuis Jésus par le sacrifice une fois pour toutes de Jésus. Et voici le texte où j'ai vu ça. C'est dans le début du chapitre 10 d'Hébreu. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? En fait, le mot « perfection » est souvent traduit par « l'accomplissement », donc vraiment être établi, accompli dans la vie chrétienne ou dans la marche correcte avec Dieu. Je poursuis. « Ceux qui rendent ce culte, donc avec les sacrifices, s'ils étaient purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient pas en effet plus du tout conscience de leur péché. » Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Alors, un peu compliqué, mais l'idée, c'est les sacrifices sont répétés. Ils sont répétés annuellement et même plus qu'annuellement. Et c'est une preuve qu'il y a quelque chose de non résolu. En 2015, Cheryl et moi, on a acheté une nouvelle voiture. Elle sortait de l'usine. C'était la Chevrolet Trax que plusieurs ont connue et qu'on a vendue déjà depuis ce moment-là. Mais à l'époque, je suis allé dans un garage après l'avoir achetée pour un traitement anti-rouille, un garage qui était réputé pour les traitements anti-rouille. Puis, le garage m'a proposé deux produits. Le premier produit anti-rouille, 100 $ mais annuel, donc à répéter à chaque année. Donc, protection, une bonne protection contre la rouille, surtout en dessous de l'auto, mais juste pour un an, puis il faut répéter 100 $ par année. Deuxième produit, traitement anti-rouille à vie, 400 $ une shot, voiture protégée contre la rouille de manière permanente. Alors, d'après vous, lequel de ces deux traitements est-ce que vous pensez que j'ai choisi?
Permanente?
Oui, mais c'est 4 fois plus cher.
Le deuxième?
Tout le monde est d'accord? C'est quand même mieux, non? Oui, parce qu'en autant que la voiture dure plus que 4 ans, c'est payant. Et il y a quelque chose de merveilleux avec l'idée de la permanence. Alors, revenons à notre texte et revenons à ton choix concernant comment tu vas approcher ton problème de péché et de pardon avec Dieu. Vous me suivez? OK. Lequel système vas-tu choisir? C'est un peu le même problème qu'avec l'anti-rouille. Mais avec une différence de rapport qualité-prix encore plus évidente. L'ancien système, et qu'on retrouve dans d'autres religions aussi, Dieu avait commandé donc des sacrifices répétés dans le désert et qu'ils ont continué dans le temple. En offrant les sacrifices d'animaux, ceux qui les offraient dépensaient beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour aller à Jérusalem, offrir les animaux. Et oui, en le faisant, ils avouaient leur culpabilité à Dieu pour leurs péchés, mais ils ne recevaient jamais la certitude qu'ils étaient pardonnés. Ça restait dans le général. Le texte, on a vu, dit ceci au verset 1, « que les sacrifices, c'est l'ombre de la vraie chose. On pourrait dire que la croix de Christ venait plus tard et elle projette une ombre vers le passé et les sacrifices, c'était cette ombre-là, c'était le signal, c'était le symbole de la vraie chose qui allait venir, du vrai pardon qui viendrait plus tard. Et dans cet ancien système, comme tu n'es jamais vraiment assuré du pardon, eh bien, tu finis par avoir une relation superficielle avec Dieu. Il y a encore de la crainte. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce qui va arriver au jugement dernier? Tu participes à des rituels, mais finalement, c'est les rituels qui sont l'intermédiaire entre toi et Dieu. Et les rituels ne te rassurent pas. Tu n'as pas de relation directe. Alors, peut-être que toi, ce matin, tu te dis, mais je me sens de même, même si je viens dans une église, mais je sens que ma relation avec Dieu est indirecte. J'ai peur de lui. Je ne sais pas vraiment s'il me pardonne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense de moi. Bien, Jésus te propose une vraie solution. Jésus te propose quelque chose de beaucoup meilleur. On a vu dans le texte qu'il a accompli un sacrifice, un seul sacrifice, une fois pour toutes. Et pour chacun de nous, ce sacrifice est suffisant pour donner le pardon de tes péchés passés, présents et futurs. Un seul sacrifice, tu le reçois, en fait, une seule fois, et tu entres dans le salut. Tu entres dans une relation libre et directe avec le Dieu éternel. Amen. Payé par Dieu lui-même, c'est ça. Donc, les rituels des religions, et même de la religion de l'Ancien Testament, c'est payé par les hommes. C'est les hommes qui élevaient et payaient pour les animaux. C'est Dieu qui fait tout, en quelque sorte, dans le sacrifice qui est le seul qui donne le vrai pardon, celui que nous connaissons par Jésus, celui de la croix. Jésus, c'est Dieu le Fils devenu homme. Il est le sacrificateur. C'est lui le prêtre qui sacrifie à la croix. En plus, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu le Fils lui-même, qui est l'animal sacrifié. Animal entre guillemets. L'offrande, le sacrifice, il est divin. C'est ça qui est merveilleux. C'est plus qu'un sacrifice. C'est une offrande parfaite qui expie parfaitement tous les péchés. Donc, quelle que soit la chose que tu regrettes, le mal que tu as fait aux autres ou à toi-même, il y a amplement suffisant dans le sacrifice de Christ pour te pardonner et te libérer de cette chose. Reçois Christ ce matin si tu ne l'as pas encore fait. Il a fait ce travail pour que toi, tu puisses vivre cette relation avec Dieu. Et justement, on en arrive à mon deuxième point, que le plan de Dieu, le but de Dieu, le désir de Dieu pour toi, c'est que tu deviennes un de ses enfants qui le servent avec un cœur libre. Alors, c'est ça que Dieu a toujours voulu, des serviteurs, des enfants qui le servent avec un cœur libéré et libre et heureux. On voit ça dans le message des prophètes. Par exemple, dans Zacharie, le prophète est en train de parler au nom de Dieu. Ce que je vous demande, c'est l'Éternel des armées qui parle. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Les hommes qui ne se savent pas pardonner gardent une distance envers Dieu et pratiquent les rituels. Et Dieu te dit, revenez de cœur à moi. Et je reviendrai vers vous. une relation avec le cœur libéré. Je vais lire le texte. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Alors, c'est seulement rituel. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est ça, ce que Dieu veut, c'est que tu le serves le cœur libre et en contact direct avec le Dieu vivant. Je vais mettre en caractère gras la deuxième partie qui dit cela, que le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. Donc, ça parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit ici. C'est leur plan depuis le début. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va purifier ta conscience des œuvres mortes afin que tu puisses le servir, le cœur libre. Savoir que tu es pardonné, quelles que soient tes erreurs. Tu es pleinement accepté par Dieu. Tu es libre, mais pour aller témoigner de ta joie aux autres. Quand on pense à Zosha, à Myriam qui partent au Belize, ben c'est ça que vous allez faire. Allez-y avec cette assurance de cette libération pour pouvoir la communiquer aux jeunes avec qui vous allez travailler. C'est ce que Tim est en train de faire quelque part en Asie et c'est ce que toi, tu es appelé à faire là où tu vas aller cette semaine. Et quand le souvenir d'une erreur du passé te revient à ta conscience, tu peux la remettre à ton Dieu qui va t'enlever ce fardeau-là pour que tu puisses focaliser sur les bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi dans ta nouvelle vie libre avec lui.
Amen.
Amen. Yes. Il y a une différence maintenant entre ceux qui sont inconscients de leur faute et de leur culpabilité parce qu'ils oublient le mal qu'ils font puis ils ne confessent jamais, et avec ceux de l'autre côté qui sont libérés parce qu'ils ont confessé et ont reçu le pardon. Ça, c'est vous autres, OK? C'est ça, le genre de... C'est cette deuxième sorte de personne que toi, tu es appelé à être. Faire face à tes péchés lorsque Dieu te les montre pour confesser, être libéré. Donc, c'est bon. Dieu veut que Dieu prenne conscience de tes péchés au moment voulu. Pas tout en même temps, mais au moment voulu, il ôte ta culpabilité, mais en ayant pris conscience et en étant libéré, tu peux humblement en parler avec d'autres personnes lorsque c'est utile pour les aider dans leur lutte. Est-ce que vous me suivez? OK, donc, je vais inventer un exemple ici sur le tas ici. Bon, peut-être que tu es un chrétien engagé, mais dans ton passé, tu as un mariage qui a échoué. Il y a un divorce dans ton passé. Plutôt que de jamais y penser, eh bien, tu as confessé à Dieu les erreurs que toi t'as commises. Tu as peut-être été la victime, sûrement, des erreurs de l'autre personne, mais tu vas peut-être être capable un jour d'encourager quelqu'un qui passe par ce même genre d'épreuve terrible, qui est aussi un échec. On peut dire, il y a toujours du péché impliqué dans ces choses-là. Dieu veut te libérer. Dieu veut te libérer, mais pour pouvoir aussi aider les autres lorsque c'est utile. Une troisième vérité, alors ça c'est une drôle d'image, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour la... Il y a de la distorsion. Mais ça, c'est supposé être Jésus qui t'accueille dans le royaume de Dieu à la fin des temps. Dieu veut que... Puis on voit mal. Dieu veut que j'aie l'assurance de mon salut. Ça, c'est vraiment quelque chose, on pourrait dire, d'assez unique dans le christianisme. Et on va dire, c'est un accent dans nos églises évangéliques, l'assurance du salut. Les gens se disent, waouh, ils sont donc prétentieux, ils se prétendent sauvés. Ce n'est pas du tout ça. C'est la Bible qui nous dit, à cause de l'œuvre de Jésus, tu peux avoir l'assurance de ton salut. Et c'est quelque chose qui n'est pas de l'orgueil, mais c'est quelque chose qui est... tu peux aider les autres avec ça. Regardez ici, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Ça t'inclut toi, ça. Puis il va apparaître une seconde fois, sans rapport avec le péché. Il va apparaître à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et ça, c'est toi, si tu l'as reçu, si tu es au bénéfice de sa croix. Quand tu vas être devant lui, c'est pour recevoir ton salut. Et même si la Bible nous dit qu'il faut qu'on ait une crainte de lui, un respect qui est saint, parce qu'il est Dieu et c'est lui qui va juger la terre, l'Évangile nous invite à vraiment avoir confiance en lui et même à vraiment avoir hâte d'être face à face avec lui. Peut-être qu'il y en a qui étaient là l'année passée quand on a parlé des quatre jugements de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça? Peut-être pas, mais je vais répéter. Les quatre jugements de Dieu. Le premier jugement, c'est la croix. Jésus jugé à ma place. Et moi, jugé en lui, si je viens à la croix, je passe par mon jugement. C'est Jésus qui paye et je passe de l'autre côté pardonné, libéré, on peut dire acquitté dans mon jugement. Ça, c'est vraiment l'Évangile, le premier jugement. Le deuxième jugement, c'est que tu le vis à tous les jours si tu as reçu Christ. Tu es juge de ta propre vie et tu confesses tes fautes, mais toujours dans le pardon. Troisième jugement, le tribunal de Christ. Les chrétiens, les chrétiennes vont faire face à Jésus et il va leur donner des récompenses pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour eux et qu'ils ont accomplies. Le quatrième jugement, c'est celui-là qui est terrible, mais... Nous, on ne passe pas par le quatrième jugement si on a reçu Christ. Hein? Acte 17 dit ceci, « Dieu annonce à tous les hommes, en tout lieu qu'ils aient, à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné. » Alors, reste ferme dans ton assurance du salut. Pour pouvoir partager cette confiance et cette solution aux gens autour de toi. Parce que le but, c'est qu'ils n'aient pas à passer par le quatrième jugement, mais qu'ils viennent, avant qu'il soit trop tard, au premier jugement. Est-ce que vous me suivez? Oui? Malberly, est-ce que tu me suis? C'est super. OK. Maintenant, on arrive au quatrième à la quatrième vérité, c'est par rapport au repas du Seigneur. Ça, c'est la célébration de ce que Jésus a fait pour nous. Et ce repas n'est pas un triste sacrifice, mais c'est la célébration de notre héritage. Pas un rituel triste, mais la célébration de notre héritage. Alors, quand on parle d'héritage, on parle de testament, le document qui s'appelle le testament. Et voici ce que Hébreux dit. En effet, ça c'est au chapitre 9, verset 16, en effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Maintenant, un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès seulement, puisqu'il n'y a aucun effet tant que le testateur vit. L'auteur est en train de parler ici de la nouvelle alliance établie par Jésus. Et dans la Bible, le mot « alliance » et le mot « testament », c'est le même mot. C'est le mot grec « diatéke ». Et ça est parfois traduit par « alliance », des fois traduit par « testament ». Puis l'idée, c'est que les alliances de Dieu, il y a toujours une mort impliquée. Avec Abraham, donc il y avait des animaux qu'il a dû tuer. Et dans la Nouvelle Alliance, quand Jésus l'a annoncé pour la première fois, il annonçait sa mort. Hein? Et c'était quand il a célébré ce repas pour la première fois avec ses disciples. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que nous devons approcher l'Alliance en Jésus et le repas de l'Alliance comme on approcherait le testament de quelqu'un de riche qui vient de mourir. Enfin, de quelqu'un qui vient de mourir. Le testament donne les dernières volontés de la personne et c'est ouvert et lu après sa mort et déclare quelles sont ses dernières volontés et quel est l'héritage des différents bénéficiaires. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà écrit un testament? Moi, oui. Les plus vieux, mais il y a des plus jeunes aussi. C'est quelque chose d'important. Là, tu sais, au niveau de la vie terre à terre, c'est quelque chose d'important. Et, je vais vous raconter une histoire. Imagine, une histoire que tu es dedans l'histoire. Imagine maintenant que tu es convoqué chez une notaire, OK? Parce qu'elle a besoin de te parler concernant le testament d'une grande tante à toi qui vient de décéder, OK? Cette grande tante, ta grande tante, est décédée dans la maladie et la pauvreté. Donc, toi, tu embarques dans ta voiture ou dans ton autobus et tu te rends à l'adresse de la notaire. Et à l'intérieur de toi, tu es incertain, incertaine, et tu te sens mal. Tu te dis, j'aurais dû visiter cette grande tante-là dans sa souffrance. J'aurais dû l'aider plus, j'aurais dû prier pour elle. La pauvre, elle avait pas beaucoup d'argent. Je ne sais pas de quoi la notaire veut me parler. Tu arrives là-bas, tu arrives au bureau de la notaire, puis là, tu vois tes cousins et tes cousines sont là. Elle a convoqué tous les neveux, les nièces. Et puis, elle vous installe autour de son bureau et elle commence à vous lire le testament. Donc, elle lit les lignes écrites par la grande tante qui disent ceci. « Chers enfants, ne vous mettez pas en peine pour moi. Lorsque vous lirez ces lignes, je serai avec mon Dieu. Inquiétez-vous pas, je vous pardonne à tous ceux qui ne sont pas venus me voir quand j'étais à l'hôpital. Je vous aime, même si je souffre dans mes derniers jours. Ça te fait rire. Même si je souffre dans mes derniers jours, j'ai préparé des bonnes choses pour vous. Et j'écris ce testament dans la joie. Durant ma vie, j'ai acquis une fortune que j'ai gardée secrète. Et je l'ai gardée pour vous, pour votre succès et votre avenir. J'ai décidé que chacun de vous va recevoir 1 million de dollars. Soyez bénis, utilisez-le pour le bien. Ne le gaspillez pas, je vous aime. OK, est-ce que tout le monde m'a suivi? C'est la fin de l'histoire, mais j'ai une question pour vous. Ça serait quoi ta réaction? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui! Donner la moitié à l'Oasis. Non. Non. Et peut-être que tu as des besoins financiers et tu dis, oh, en tout cas, peu importe, mais quelle surprise, quelle joie, quelle libération de recevoir la grâce quand on ne la mérite pas. Hein? Et alors, la lettre aux Hébreux nous enseigne que Jésus, lui aussi, fait de nous des héritiers de ses richesses. Et, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on va laisser ça comme ça. Et donc, quand il nous a donné ce saint repas, qu'on va partager tantôt, c'est le repas de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament en lui. Et il veut qu'on le vive comme une célébration de notre héritage. Amen? Amen. Et j'invite tout le monde à participer avec joie. C'est vrai qu'on commémore sa mort dans ce repas, mais aussi et peut-être surtout, Jésus nous dit, « Hey, j'ai travaillé fort, j'ai tout donné pour vous donner un héritage riche. » On a parlé du pardon. On a parlé du salut. On a parlé de cette relation libre avec Dieu. On a parlé de cette propension nouvelle pour le servir et servir les autres. Et ainsi de suite, comme lui, il a vécu. Un héritage hyper généreux, beaucoup plus grand qu'un million de dollars. Est-ce que vous êtes d'accord que ce que Jésus nous donne vaut mieux qu'un million? OK? C'est vrai. Dans ce repas, Jésus ne cherche pas à revivre ses souffrances. Il les a déjà souffert. Il ne veut pas nous culpabiliser, nous rendre tristes, nous faire goûter à ses souffrances. Bien que, oui, c'est une commémoration. Oui, il y a une solennité. Mais il veut surtout partager avec nous cette joie qu'il avait en écrivant ce testament. Et c'est à cela qu'on est invité ce matin. Et donc, pour terminer, une chose que je pourrais vous dire, c'est, je vous invite à relire la lettre aux Hébreux qui est vers la fin du Nouveau Testament. Il y a beaucoup de bénédictions là-dedans. Et c'est compliqué, peut-être ça vous prendrait un petit guide. Je peux peut-être vous conseiller un petit commentaire ou un petit guide d'explication pour la lettre aux Hébreux. Mais c'est vraiment, ça fait du bien. Et n'oubliez pas le résumé de ce que j'ai dit. Reste accroché à Jésus, car lui et seulement lui, purifie ton cœur de toute culpabilité. Libère ton âme pour servir Dieu et les autres sans crainte. Place une sagesse à l'intérieur de toi pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, nous allons nous préparer pour la scène, mais d'abord, prions. Et j'inviterai deux personnes peut-être à élever la voix avant moi, maintenant. Donc, n'importe qui dans la salle, juste peut-être de prier courtement et avec une voix très forte pour remercier Dieu pour ce que nous venons d'entendre, de réentendre.